À ouvrir vos Bibles dans Éphésiens chapitre 5. En fait, nous allons lire les derniers versets du chapitre 4 et les premiers versets du chapitre 5. Éphésiens, donc si vous voulez, Éphésiens chapitre 4, verset 32. Nous avons vu ce principe déjà dans le chapitre 4, où le Seigneur nous invite à quitter la vie que nous avions pour nous concentrer dans cette vie nouvelle. Et il a employé le mot de marcher. Il dit, vous marchiez autrefois, mais maintenant vous allez marcher autrement. Et donc, Éphésiens chapitre 4, et je lis le verset 32. Ensuite, je lis au chapitre 5, les versets 1 et 2. Éphésiens 4, verset 32 nous dit « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ. » qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Je peux lier les deux chapitres parce que dans le texte original, il n'y avait pas les chapitres. Hein. Les chapitres, ça a été ajouté depuis pour nous aider à nous retrouver plus facilement. Donc en fait, c'est une continuité de pensée. Et donc à la fin du chapitre 4, eh bien, ça continue dans le chapitre 5. Et en fait, il est en train de parler de l'amour. Hein, il nous dit de marcher dans l'amour. La question que je vais poser ce matin, c'est comment évaluer le degré d'un amour? Comment mesurer l'amour? Comment peser l'amour? Quelle unité est-ce qu'on utilise pour mesurer l'amour? Bon, je pose la question comme ça, puis dans votre tête, je sais que ça tourne rapidement, vous cherchez quelque chose. Je ne vais pas vous demander ce que vous avez trouvé, mais vous avez quand même remarqué dans la vie que nombreux sont ceux qui déclarent aimer. Hein, vous avez certainement, j'espère pour vous, qu'au moins il y a quelqu'un dans la vie qui vous a dit « je t'aime ». La question, c'était comment vous avez entendu les mots, mais après, comment savoir combien il aime? Hein? Est-ce que les signes qu'il donne sont suffisants pour être des preuves d'amour? Hein? Il dit, moi, je t'aime, et puis après, il dit quelque chose. Ou elle dit quelque chose, je t'aime tant que ça, ou je t'aime plus que ça, ou je t'aime jusqu'à, ou peu importe ce qu'il raconte, ou ce qu'elle peut raconter, il essaie de donner des signes pour aider à évaluer son amour. Oui. Mais bon, est-ce que ça, c'est vraiment suffisant? Est-ce que ça vraiment, c'est ça qui démontre, hein? Celui qui dit je t'aime, je suis prêt à me jeter à la mer pour toi. Je dis bon, ben, c'est pas très utile. Peut-être c'est impressionnant, mais c'est pas très utile. Après quoi, hein? On peut dire oui. Et puis alors, bien sûr, les fleuristes, ils aiment bien dire dites-le avec les fleurs. Hein? Donc en fonction de combien coûte le bouquet, on mesure l'amour. Ou bien on regarde la carte, et puis après vous prenez la carte, vous la retournez, vous voyez combien elle a payé. On peut voir beaucoup de choses, mais est-ce que c'est vraiment ça qui montre le degré d'amour? On peut après se dire, mais on va voir combien de temps ça dure. Est-ce que ce sont les promesses qui expriment la profondeur de l'amour? Je promets de... Vous savez, au jour du mariage, est-ce qu'on fait comme promesse? Ou au jour du fiançailles? Oh, moi je t'aime jusqu'à... Et après, Maintenant, presque on ne croit plus. Hein, ce n'est pas garanti. Hein, les mots n'ont pas de poids. Et alors, comment évaluer l'amour? Et puis, surtout quand on parle de l'amour de Dieu. Lequel a un amour crédible? Il y a celui qui est attiré à vous parce que vous êtes jeune, riche et belle, ou bien celui qui vous apporte ce dont vous avez le plus besoin, lequel vous aime le plus. Hein? Il y en a un qui cherche son intérêt et il y en a l'autre qui cherche votre intérêt. Et quand il cherche son intérêt, eh bien, l'amour risque de ne pas durer longtemps parce que le moment où il n'y a plus son intérêt, eh bien, l'amour disparaît, hein, comme une vapeur. Tandis que celui qui cherche mon intérêt et il veut répondre à des besoins, eh bien, moi, je suis sûr que j'aurai des besoins toute ma vie. Il y aura de quoi l'occuper. Hein, donc, comment est-ce que j'interprète ces mots, ces promesses, ces engagements? Mon épouse et moi avons déjà parlé d'un certain couple. Quand ils nous font un cadeau, eh bien, on voit qu'ils ont mis beaucoup de réflexion dans ce cadeau. Ils ont vraiment, ce n'était pas juste une question d'un cadeau, et puis c'est le truc, c'est qu'il y a quelque chose emballé dans du beau papier. Ce n'était pas ça pour eux le cadeau. Pour eux, le cadeau, c'est qu'ils ont réfléchi, qu'est-ce qu'ils n'ont pas eu depuis longtemps, qu'est-ce qu'ils auraient besoin, qu'est-ce qui leur ferait plaisir. Et puis, on voit qu'il y a eu beaucoup de réflexion là-dedans. Et peu importe, et parfois, le cadeau, il n'y avait même pas de papier, et même pas de ruban. Mais vous savez, on a chaque fois eu le sentiment qu'il nous disait combien il nous aimait. Pourquoi ? Parce qu'il y avait de la réflexion. Et on pouvait mesurer le degré de réflexion là-dedans. On se dit, c'est pas la première solderie au bout de la rue où ils ont été trouver quelque chose. Mais ils ont vraiment réfléchi, ils ont cherché pour trouver quelque chose. Vous savez, il y a plusieurs manières de lire l'amour pour savoir ce que ça vaut. Et il est important pour nous de savoir pouvoir reconnaître l'amour sur lequel on peut bâtir. Parce qu'on bâtit sur l'amour. Hein, quand il y a du vrai amour, on peut construire une vie, on construit une relation, on construit un avenir. Alors, comment reconnaître ce vrai amour? Vous savez, si c'est une question de... Il y a une expression en anglais, il parle l'amour des petits chiots. Vous savez, les petits chiens, ils sont là, ils courent derrière, ils vous lèchent, ils tournent. Et c'est facile d'imiter ça. Mais des fois, vous voyez des couples, vous voyez, vous dites, c'est exactement ça. Et puis après, le moment où il n'y a plus rien à manger, ils disparaissent. Hein? Ou bien, je me rappelle en Algérie, il y avait le marchand de sardines. Ah, tant qu'il avait des sardines sur sa carriole, il y avait des chats. Au moment où il n'y avait plus de sardines, plus de chats. On appellerait ça l'amour félin. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui existent. Mais quel est le vrai amour qui permet de construire dessus? On sait qu'il sera là quand on en aura besoin. Et alors, lorsque je lis ce passage ici, il nous parle, il nous dit de marcher dans l'amour. Eh bien, si je dois marcher dans l'amour, il faut bien que je sache ce que c'est, surtout qu'il s'agit de l'amour de Dieu. Premièrement, je veux voir le lien qui existe entre l'amour et le pardon. Je sais que ce n'est pas comme ça que ça se présente dans le journal Nice Matin, ni le Var Matin. Mais dans la Bible, l'amour et le pardon vont ensemble. Vous savez, un jour, et c'est dans Luc chapitre 7, hein, si vous voulez commencer à chercher, Luc chapitre 7, Jésus un jour est invité chez un pharisien et il est à table. Et pendant qu'ils sont à table, il y a une femme qui s'approche des pieds de Jésus et qui est là en train de baiser les pieds de Jésus et en train de pleurer. Et ensuite, ses larmes tombent sur les pieds et elle essuie ses larmes avec ses cheveux. Pour comprendre comment, c'était pas qu'elle était sous la table, mais bon, la manière de se mettre à table à l'époque, hein, c'était des banquettes et on s'allongeait et on se mettait à table sur un coude et on mangeait avec l'autre main. Donc les pieds sont vers l'extérieur en éventail. Tout le monde est assis avec les pieds vers l'extérieur. Donc c'est pour ça que les pieds étaient accessibles. Hein. Donc voilà. C'est occidental de mettre les pieds sous la table. C'est pas toutes les cultures qui le font. Donc cette femme s'approche et donc je vais lire. Donc Luc chapitre 7 et regardez au verset 36. Je vais lire le passage pour le rappeler. Certainement que vous vous dites, ah oui, j'ai déjà entendu. Mais bon, je ne vais pas vous demander de le raconter parce qu'on risque d'oublier quelques détails. Verset 36. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table à la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre, c'est-à-dire un parfum très plein de parfums. Albâtre, c'est une pierre, et puis après, ils s'en servaient comme vase. Et se tint derrière, aux pieds de Jésus. Elle pleurait. Et bientôt, elle lui mouilla les pieds avec ses larmes, puis elle les essuya avec ses cheveux, les embrassa et les oignit de parfums. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il saurait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il saurait que c'est une pécheresse. » Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, « Parle !» répondit-il. Et il lui raconte une histoire. Il dit, « Un créancier avait deux débiteurs. L'un devait 500 deniers, l'autre 50. » Donc, il y en a un qui devait 10 fois plus que l'autre. « Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous les deux leur dette. » Voici la question du Seigneur. « Lequel l'aimera le plus ?» Simon répondit, « Celui, je pense, auquel il a le plus remis. » Jésus lui dit, « Tu as bien jugé. » Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, « Vois-tu cette femme ? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds, mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés de ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis rentré, elle n'a point cessé d'embrasser mes pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Il dit à la femme, « Tes péchés sont pardonnés. » Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, « Qui est celui-ci qui pardonne même les péchés ?» Mais Jésus dit à la femme, « Ta foi t'a sauvée, va en paix. » On ne va pas rentrer dans tous les détails. Je relève quelques points. C'est qu'il y avait deux créditeurs. L'un devait 500 deniers, donc l'équivalent de 500 jours de travail, hein, plus d'une année, hein, une année et demie. Et l'autre devait 50 deniers, donc un mois et demi. Et tous les deux se trouvaient dans une situation, impossibilité de rembourser. Donc le créditeur, il a dit, le créancier a dit, écoutez, je tamponne, c'est payé, on n'en parle plus. Et alors, Jésus dit à Simon, lui dit, tu sais, lequel va aimer plus ? Il dit, ben, celui à qui le plus a été pardonné. Vous voyez, la première chose que Jésus est en train de mettre en valeur, il est en train d'associer pardon et amour. Pardon et amour. Celui à qui a été plus pardonné aimera plus. Bon, vous n'entendez pas ça dans la rue. Associer l'amour au pardon. Mais puisque nous, on a affaire avec Dieu, on parle de Dieu, eh bien, il faut qu'on comprenne comment lui voit les choses. Et là, on voit l'amour et le pardon. Après, il dit, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car il a beaucoup aimé. Celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et donc, il associe le pardon et l'amour, et puis il associe aussi l'intensité de l'amour au pardon. C'est le degré d'amour va être proportionnel à ce qui a été pardonné. C'est-à-dire, parfois, Dieu est prêt à tout nous pardonner, mais nous ne voyons pas trop de péchés, alors on ne croit pas qu'il a trop pardonné. Hein, bon, je n'étais pas si mauvais que ça, hein, après tout. Ben alors, mon amour va être en proportion de ce que je crois m'a été pardonné. Hein? Et donc, si moi, je me vois trop bon, et puis je dis, Seigneur, oui, toi, quelquefois, c'est glissé un petit peu, hein, mais bon, sinon, je ne suis pas si mauvais que ça, eh bien, celui-là ne va pas trop aimer, parce qu'il n'a pas trop été pardonné pour lui, dans son esprit. Tandis que celui qui se rend compte de ce qu'il est, et comment Dieu l'a perçu, et combien il est pécheur devant Dieu, il dit, mais Dieu, tu m'as pardonné, mais je n'en reviens pas. Et je pourrai jamais assez t'aimer pour ce que tu as fait pour moi, ce que tu m'as pardonné. Vous savez, et ça se passe dans ma tête, ça se passe dans mon cœur. Combien je vais aimer ? Et c'est en proportion avec ma compréhension de cet amour. Et lorsque je prends et je fais une étude plus exhaustive, là je vous ai donné un seul exemple, hein, mais si vous avez commencé à chercher dans la Bible, vous allez trouver que, en fait, il y a un lien étroit qui existe entre l'amour et le pardon. Ils sont tout en, depuis le début de la Bible, l'amour et le pardon. Et on serait même amené à dire que celui qui aime beaucoup pardonne généreusement et celui qui aime peu pardonne difficilement. Parce que c'est plus facile de pardonner quelqu'un qu'on aime. Et si on ne l'aime pas trop, on n'a pas envie de le pardonner. Et donc, vous savez, je peux le prendre dans l'un ou prendre l'autre. Si j'ai quelqu'un, je dis, oui, ben je l'aime, c'est un frère du ça. Oui, mais bon, quand il faut pardonner, hein, faut que je le voie vraiment à quatre pattes et puis qu'il me baise les pieds et tout ça, hein, pour que je le pardonne. Eh bien, ce que je suis en train de dire, c'est que je ne l'aime pas beaucoup. C'est tout ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de dire qu'il est terrible. Terrible ou pas ? Le problème, c'est moi, combien je l'aime. Avec quelle aise est-ce que je pardonne ? Est-ce que je suis généreux dans mon pardon ? Et l'apôtre Pierre, il exhorte les frères dans son épître à aimer d'un amour mutuel. Il dit, avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. Il dit, quand il y a l'amour, même avant que la personne demande pardon, j'ai déjà pardonné, quand j'aime. Mais quand j'aime pas, même s'il demande, je dis, je vais réfléchir. J'espère qu'il ne va pas dire, je dois aller prier et demander à Dieu, parce qu'on connaît la réponse tout de suite. Pour lui, c'est pardonner. Hein? Mais il dit, l'amour couvre une multitude de péchés. Donc, c'est la couverture. L'amour, c'est la couverture qui peut couvrir. Alors, si la couverture est petite, elle couvre qu'un petit tas de péchés, certains péchés. Si la couverture est grande, elle peut couvrir beaucoup plus de péchés. Et Et puis dans une relation de couple, ben on a souvent besoin de ça. Dans une relation de parents-enfants, il n'y a ni l'un ni l'autre qui est parfait. Et il faut que l'amour qui existe là, ben ça couvre pas mal de fautes. Dans une église aussi, hein, il y a, même si on s'appelle parfaite, mais il n'y a personne de parfait. Hein, et on a besoin d'avoir l'un pour l'autre de l'amour qui couvre. Hein, pour pouvoir pardonner. Et donc, il y a un lien étroit entre le pardon. Alors, comment mesurer ton amour ? Eh bien, qu'est-ce que tu es prêt à me pardonner ? Combien je t'aime ? C'est combien est-ce que je suis prêt à te pardonner ? Jusqu'à où est-ce que je suis prêt à aller ? Un lien étroit entre l'amour et le pardon. Ah là, c'est autre chose, hein, qu'on commence à se servir de ça pour mesurer l'amour. Et après, on voit aussi dans l'Écriture, on voit un lien étroit entre l'amour et le sacrifice. C'est toujours lié, quand on parle de l'amour de Dieu, il nous parle, et dans ce passage ici aussi, dans Éphésiens 5, eh bien justement, il nous dit de l'aimer... marcher dans l'amour, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même pour nous. Donc associé à l'amour, il y a le sacrifice. Dans la petite histoire que Jésus a racontée des deux créditeurs, le créancier a pardonné. Et combien est-ce que ça lui a coûté de pardonner ? Ça lui a coûté 500 deniers. Plus 50 deniers, 550 deniers. C'est ça que ça lui a coûté, de dire « je vous pardonne ». Il y a quelqu'un qui paye. 550 deniers, ça fait 550 jours de travail, parce qu'un denier, c'était le salaire pour une journée de travail d'un journalier agricole. Et donc, ça montrait... Bon, après... Je ne vais pas rentrer dans le détail, vous dites, ouais, mais peut-être s'il avait un million, hein, c'est rien. Donc je ne vais pas rentrer dans ce détail-là. Mais ce que je peux souligner, c'est que quand il a pardonné à ces deux hommes, il s'est libéré d'un souci. Parce que maintenant, chaque fois qu'il les voit, il n'a pas besoin de penser, de dire, ouais, quand est-ce qu'ils vont payer ou, Non, ça s'est réglé. Vous savez, quand je pardonne, je me décharge d'un souci. Je me libère de quelque chose. Et vous savez, se libérer d'un souci, c'est bon pour la santé, hein, et pour le psychique aussi. Et ceux qui n'arrivent pas à pardonner, eh ben, en général, ils ont des soucis, hein, puis si ça dure trop longtemps, ils sont perturbés. Et ils disent, oui, mais bon, ça me coûte. Écoute. Qu'est-ce que tu es ? Quand c'est pour ta santé, quand c'est pour ton bien, est-ce que tu regardes le prix ? Et quand on aime, est-ce qu'on regarde le prix ? L'apôtre Paul avait été un homme qui était convaincu que ce qu'il faisait, c'est-à-dire de persécuter les chrétiens, c'était par jalousie pour Dieu. Il défendait la cause de Dieu, la religion de Dieu, il défendait le judaïsme, et il était prêt à se servir de la force, de la violence, pour le réaliser. Et il combattait ceux qui adhéraient à la voie du Jésus de Nazareth. Et il était prêt à utiliser... la force, comme j'ai dit, la force, la violence pour atteindre l'objectif de ramener les gens au bercail. Hein, c'était comme ça qu'il percevait les choses. Et puis un jour, il a rencontré Jésus, alors qu'il était en train de penser des choses terribles. Hein, dire, voilà ce que je vais faire, comment je vais les prendre, tout ça. Et le Seigneur l'a parlé. Et tout d'un coup, il a vu le monde autrement. Sa vision globale, sa vision du monde a changé. Et tout d'un... Après, il est devenu, et comme nous pouvons lire dans, aux Thessaloniciens, il est devenu comme une nourrice avec un enfant. Cet homme qui était si violent, c'était un homme qui était capable de prendre femme et enfant et de jeter en prison, et les prisons de l'époque, ce n'est pas celle d'aujourd'hui. Et là, il a dit, il est devenu telle une nourrice qui prend soin d'un enfant. Tous ses gestes sont tendresse. Tout ce qu'il fait, c'est pour le bien de l'autre. Et ça a été caractéristique de ce qu'il est devenu. Dieu a transformé sa vie. Et tout d'un coup, il cherche le bien. La force, la menace, la dureté sont les moyens auxquels on a recours quand l'amour n'est pas là. Regardez dans une relation conjugale, quand il y a l'amour, on se parle gentiment. Quand il n'y a plus l'amour, aïe, aïe, aïe. C'est... Il n'y a rien de gentil. Parce qu'on a, on commence à se servir de la menace, on commence à se servir de la violence, on commence à dire les choses qui font mal. Et puis, et on connaît comme on connaît l'autre personne, le partenaire, donc on connaît les points sensibles, et alors on touche sur les points sensibles et qui font mal. On rappelle des choses qu'on ne devrait plus rappeler. Tandis que l'apôtre Paul, poussé par l'esprit, aux Corinthiens, il décrit ce que c'est que l'amour. 1 Corinthiens, chapitre 13, et à partir du verset 4... Je lis un peu ce qu'il dit de l'amour. 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 4, il dit « L'amour est patient. Il est plein de bonté. » La bonté, c'est quelque chose qui bénéficie l'autre. Hein. « L'amour n'est point envieux. Je suis content que tu as ce que tu as. Et que c'est toi qui as gagné, je suis content que c'est toi qui l'as eu. » Et l'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. L'amour ne pense pas, je suis meilleur que toi. Tu es important. Je suis content que tu sois là. Je t'apprécie. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. C'est pas égocentrique. Il ne fait rien de malhonnête. C'est-à-dire, il ne trompe pas. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Vous savez, s'il n'a pas les preuves qu'il y a vraiment, il y avait une mauvaise intention, qu'il y avait, eh bien, il dit, je ne veux pas le croire. Quelqu'un vient raconter, écoute, tu l'as vu? Non. Alors, tais-toi. Je ne veux pas l'entendre. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il ne dit pas qu'il est naïf, il croit tout, si c'est vrai, d'accord. Il espère tout, il supporte tout, et puis elle y ajoute, et l'amour ne périt jamais, le vrai amour ne périt pas. L'amour continue, il peut être blessé, il peut être offensé, il peut être... mais il continue. Parce que s'il ne nous disait pas ça, vous imaginez avoir un Dieu qui n'a pas cet amour-là. Ce serait comme vivre avec quelqu'un sur terre. Hein. Mais s'il nous dit, quand, là il nous décrit son amour, et il dit c'est l'amour que mes enfants doivent avoir. Alors quand je reviens au chapitre 5 d'Éphésiens, Et je lis maintenant ce qu'il nous dit. Il dit « Marcher dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » De bonne odeur, c'est l'expression dans l'Ancien Testament que ça veut dire que c'est, le sacrifice avait plu à Dieu. Hein? Là, verset 2, il nous dit « Marcher dans l'amour ». Marcher, nous l'avons déjà souligné, c'est un mode de vie, hein, marcher. C'est pas assis, c'est pas voler, c'est marcher. Un mode de vie que je continue. Et dans cette épître aux Éphésiens, on trouve plusieurs fois, hein, marcher, on l'a déjà souligné par le passé, on le trouve au verset 2, chapitre 2, verset 2, chapitre 2, verset 10, chapitre 4, verset 1, chapitre 4, verset 17, ici au chapitre 5, au verset 8 du chapitre 5, qui dit vous, autrefois, hein, vous, il nous dit maintenant marchez comme des enfants de lumière. Et puis au chapitre 5, verset 18, il nous dit aussi, il parle de notre conduite. Donc c'est un mode de vie. Il dit donc marcher dans l'amour. C'est-à-dire que ça devient caractéristique de votre vie. Ce n'est pas juste de temps en temps, ça sort, ou avec certaines personnes. Non, c'est ma vie. Hein? L'exhortation, c'est de vivre dans l'amour, selon l'amour, à l'exemple de Christ, plutôt qu'une conception courante. Hein, les gens, regardez autour de vous, vous lisez les romans, vous regardez certains films, tout ça, l'amour qui vous présente, c'est un amour très charnel, très matériel, très intéressé, il y a tout sauf ce qu'on voudrait. Et dis donc que c'est pas marcher dans l'amour, pas de comme autour de vous. Vous essayez de comprendre ce à quoi Dieu pense, et après vous vous alignez sur sa pensée, et de vivre son amour. C'est sûr que ça va être un autre mode de vie. Hein. Autant qu'on disait que l'apôtre Paul, hein, quand il était Saul, il était d'une nature, et quand il est devenu l'apôtre Paul, il est devenu autre chose. Et lui, c'est lui là, qui nous dit de devenir des imitateurs de Dieu. L'amour de Jésus, pour nous, l'a poussé au sacrifice ultime, mais approuvé de Dieu. Et l'amour réel ne s'arrête pas devant un prix à payer. Il nous a aimés, il était prêt à payer le prix. Et si nous aimons le Seigneur, nous sommes prêts à payer s'il y a un prix à payer. Donc nous avons vu le lien entre l'amour et le pardon, le lien entre l'amour et le sacrifice. Il y a un lien entre Dieu et l'homme pécheur. Et là, tout à l'heure, notre frère nous a souligné la chose, hein, quand il parlait du trône de la grâce, et le pécheur qui se présente devant Dieu trois fois saint, on dit que ce n'est pas possible. Le fait, quand on dit que Dieu aime, ça ne veut pas dire qu'il approuve le péché. Hein. Quand il aime un pécheur, ça ne veut pas dire qu'il approuve son mode de vie. Hein. On peut aimer quelqu'un, c'est comme nos enfants, hein, ils ne sont pas toujours... des petits anges célestes en tous les cas. C'est étonnant, hein, comment ils arrivent à naître anges célestes et puis ils deviennent des petits diablotins. C'est, il dit, non, mais on les aime tout le temps. L'amour ne s'arrête pas. J'ai entendu récemment un père qui disait, j'ai jamais su aimer mes enfants. Eh bien, laissez-moi vous dire que ses enfants sont bien malheureux. Et lui aussi. Il dit... Certains, vous savez, ils préfèrent ne pas trop rentrer dans cette relation d'amour parce qu'ils préfèrent leur liberté. Ils se sentent plus libres. Il dit parce que quand on n'aime pas quelqu'un, on n'a pas d'obligation. Si je ne l'aime pas, je peux faire ce que je veux, pas de problème. D'autres disent, oui, quand tu aimes, eh bien, tu deviens, tu es faible, parce que maintenant, tu ne penses qu'à faire plaisir à celui-là, donc c'est lui qui dirige ta vie. Et il y en a qui les voient des deux manières. Mais souvenons-nous que l'homme a été créé par un Dieu dont la nature, c'est l'amour. Dieu est amour. Et Dieu est celui qui nous a créés. Et donc, il n'est pas étonnant que lorsqu'il nous a créés, il nous a créés de manière à avoir besoin de l'amour, d'avoir besoin d'être aimé, et puis de pouvoir aimer. Et c'est, en fait, l'être humain, lorsqu'il se trouve dans ce contexte de aimer, être aimé, eh bien, il s'épanouit. Vous avez mis la plante au soleil avec un peu d'eau, c'est comme vous prenez un être humain et vous le mettez dans un contexte où il est aimé et il peut aimer. Il n'y a rien de plus naturel. Et quand on détruit cela, eh bien, l'homme est malheureux. Et regardez le monde autour de nous, eh bien, c'est exactement ce qui arrive. Et donc, Dieu veut chercher cet amour. Il est amour. Il a l'objet de son amour. Et bien sûr, le bonheur, c'est quand nous répondons à son amour. Dieu cherche à rétablir l'amour là où il est absent, de l'encourager là où il est manquant. Dieu, le premier, donne l'exemple vis-à-vis de l'humanité. Il nous dit: Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Quiconque croit ne périra point, il aura la vie éternelle. Dieu a commencé par aimer, et quand il a aimé, il a donné. Pourquoi ? Parce qu'il savait qu'il y avait un obstacle. L'homme ne pouvait pas aimer en retour, il y avait un obstacle, il y avait le péché. Donc il a dit, je paye le prix. Je pardonne, c'est comme quand quelqu'un nous doit quelque chose et puis il ne paye pas, et à un moment on n'a plus envie de lui parler, tout ça, il y a un problème. Et si on arrive à régler le problème, même si c'est une question de pardonner et de tout excuser, mais au moins ça permet de rétablir la relation. Et Dieu a voulu cela. Et Dieu a désiré rétablir la relation. Il a dit même, je paye les frais du pardon. Et il donne son Fils en sacrifice. Et donc l'apôtre Paul a bien compris cela et il le dira dans Romains, il dira « Dieu prouve son amour envers nous. » En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il m'a aimé quand j'étais dans un piteux état, mais grâce au sacrifice de Christ, eh bien je peux être transformé et être présentable et pouvoir avoir une relation avec le Dieu. Et nous présenter devant le trône de grâce, comme il nous a été dit. Donc, le lien entre l'amour et le pardon, le lien entre l'amour et le sacrifice, le lien entre un Dieu d'amour et le pécheur, et puis il y a un lien d'amour entre Dieu et l'enfant de Dieu. Hein? Regardez, chapitre 5, il nous dit... Il dit aux enfants bien-aimés de marcher dans l'amour à l'exemple de Christ. Pour Christ, aimer, ça voulait dire mourir. Pour nous, aimer veut dire vivre.
C'est déjà, hein?
Pour lui, aimer, c'était mourir. Mais parce qu'il est mort, pour nous maintenant, aimer, c'est vivre. Vivre pour lui. Et donc, lorsque la semaine dernière, nous avons lu le verset 31, il dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Et tout ça, c'est le fruit de l'amertume. Et l'amertume, en général, ça vient quand on n'est pas prêt à pardonner. Hein. Il dit, enlevez tout cela. Et remplacez-le, il dit au verset 32, par « Soyez bons les uns envers les autres, compatissant, pardonnant, vous pardonnant réciproquement. Donc on remplace par la bonté, par la compassion, par le pardon. Il dit, on enlève un et on le remplace par l'autre. Et c'est ainsi qu'on peut commencer à marcher dans l'amour. Je fais remarquer que le verset 1, il dit « Devenez imitateur ». Donc, il reconnaît le fait que ce n'est pas en une nuit que ça se change. Devenir. Devenir, c'est-à-dire que c'est progressif. Donc, il nous dit, il invite à devenir imitateur de Dieu. Mais c'est un processus qui s'affirme dans notre vie. Et puis, deuxièmement, il nous dit d'imiter Dieu, et pas de devenir comme Dieu. Parce qu'on ne peut pas, pourra jamais devenir comme Dieu. Mais il dit, vous pouvez l'imiter. Et imiter, ça veut dire, c'est copier. Je ne dirais pas singer, parce que le singe, il ne sait pas trop ce qu'il fait. Il reproduit les gestes, mais il ne sait pas pourquoi. Tandis que nous, c'est avec l'intelligence qu'on est là. Il dit, mais copier. Et vous savez, la copie, c'est jamais aussi bon que l'original, mais on peut augmenter la qualité de la copie. Et plus la copie ressemble à l'original, plus elle est agréable. Et si notre vie est une mauvaise copie de Christ, ça va être un peu difficile à lire. Mais si c'est une copie de meilleure qualité, eh bien, ce sera plus facile pour le monde de lire et de voir l'amour de Dieu et l'œuvre de Dieu et la puissance de Dieu. Les caractéristiques de l'amour de Dieu, qui a aimé le pécheur, qui a cherché le bien et qui était préparé à pardonner, eh bien, c'est extraordinaire. Vous savez, Jésus sur la croix, il y a une des paroles de Jésus sur la croix, c'était quoi ? Concernant le pardon. Pardonne-leur, c'est-à-dire ceux qui sont là, qui veulent me voir crucifié, ceux qui ont dit crucifie-le, tout ça, ces gens-là, il dit pardonne-leur. Il les a pardonnés alors qu'il était en agonie sur la croix. C'est pas après, une fois ressuscité, tout va bien, tout ça, il dit bon, on va les pardonner. On pourrait dire que c'est plus facile une fois que tout va bien. Mais quand ça va mal, c'est là qu'il a pardonné. Et c'est là où on mesure le degré de son amour. Est-ce que je suis prêt à pardonner quand c'est dur et quand ça me coûte? Ou est-ce que j'attends que tout s'arrange, il y a plus tout est réparé, tout est bon? Bon, je te pardonne. Ben, ça ne te coûte rien du tout. Fais-le quand c'est pas naturel. Pardonne avant qu'on te le demande. Comme ça, quand le moment où tu en demanderas, il n'y a pas d'hésitation. Oh, c'est déjà fait, tu sais, je t'ai déjà pardonné il y a longtemps. Ah bon? Et moi, je vis comme ça, me demandant qu'est-ce qu'elle pense de moi, alors que toi, tu m'as pardonné. Il aurait dû régler ça plus tôt. C'est tout. Il ne fallait pas vivre avec ça. Et il faut régler les choses rapidement. Je lis un passage, je lis un passage d'Écriture. C'est dans le Sermon sur la montagne. Il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. C'était comme ça qu'ils avaient été élevés. Il dit, mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Après, il ajoute, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Il dit, les publicains n'agissent-ils pas de même? Il dit, ça n'importe qui peut le faire. Qu'est-ce qu'il y a de particulier, vous aimez ceux qui vous aiment? Il dit, aimez ceux qui sont difficiles à aimer, ceux qui ne sont pas aimables, et montrer de l'amour. Après là, vous faites quelque chose. Là, vous montrez que vous êtes d'une autre trempe, que vous marchez selon une autre musique. Votre chef d'orchestre, c'est pas le même. Marcher dans l'amour de Dieu. Et c'est ça qu'il demande de nous. Et oui, quand on le dit ici aussi, on est tous bien assis confortablement dans les chaises, et c'est facile à parler de l'amour. Mais demain matin, quand on arrive au travail, quand on arrive à l'école, quand on arrive à... Après là, c'est un peu plus difficile. Hein? Mais vous savez, si c'est pas là-dedans, ça sortira pas. Hein? Et donc, il nous dit, devenez imitateurs de Dieu. Dieu qui a aimé, qui était prêt à faire le sacrifice pour pouvoir pardonner, pour que tout se rétablisse. C'est ça le degré de son amour. Maintenant, si je veux l'aimer en retour, il faut que moi aussi je sois prêt à payer le prix, s'il y en a un à payer, à pardonner, s'il y a à pardonner, parce que j'aime Dieu. Et je veux aimer de son amour, comme il m'a aimé. Je rappelle ce qu'on avait dit au début, celui à qui beaucoup a été pardonné, il aimera plus. Donc c'est à moi de me rendre compte de qui, ce que je suis vraiment devant Dieu et dire merci de m'avoir pardonné. Je veux t'aimer. Je veux aimer comme tu as aimé. Et je veux aimer ceux qui sont autour de moi comme tu m'as aimé. Tu m'as aimé quand j'étais encore pécheur. Alors pourquoi est-ce que j'attends que eux changent leur vie pour les aimer? Je les aime tels qu'ils sont. Tu dis, Steve, oui. Oui. Mais bon, un peu, toi, tu es à la maison, hein, tu n'es pas au travail. Tu ne vis pas avec les gens avec qui je vis. Écoutez, vous savez, ce n'est pas toujours facile de vivre avec les chrétiens. Hein. Et ma femme, elle doit vivre avec moi. Hein. Et il faut de l'amour tous les jours, hein. Même si dans la maison du pasteur, il faut de l'amour. Et s'il y a de l'amour, ça couvre une multitude de défauts et de péchés et de fautes. On en aura toujours besoin, jusqu'à ce qu'on arrive dans la gloire. Donc il faut s'y habituer. Mais vous savez, on est en train de faire quelque chose de divin, hein, quand on aime. Prions. Père Céleste, combien nous sommes reconnaissants à toi pour ta parole. Et tu nous arrêtes et tu nous fais réfléchir. Et c'est vrai que ce n'est pas si compliqué que ça, mais bon, c'est contre l'éducation qu'on a reçue et qu'on reçoit autour de nous. Mais Seigneur, donne-nous de danser à une autre musique, celle de l'Évangile, celle qui nous a libérés. Père, tu nous as montré ce que c'est que l'amour. Aide-nous à devenir des imitateurs de Dieu, à marcher dans l'amour comme Christ. Père, il n'y en a pas un qui est prêt à dire « j'y suis déjà ». Mais nous pouvons tendre vers cela avec ton aide et en nous encourageant mutuellement. En n'essayant pas de pas nous irriter les uns les autres, mais en nous encourageant les uns les autres, en nous exhortant les uns les autres. Ensemble, nous pourrons aller beaucoup plus loin. Et tout cela à ta gloire. Père, c'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. Amen.